VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du 25 novembre au sommaire ce soir.
Visite du pape au Kenya, le souverain pontife appelle à un développement économique responsable.
Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat de Tunis contre un bus de la garde présidentielle hier ayant fait au moins 13 morts.
Le haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, condamne la suspension de 10 ONG burundaises par Bujumbura.
Reporters sans frontières dénonce une série d'arrestations de journalistes au Niger.
Moscou n'ira pas en guerre contre Ankara, rassure le chef de la diplomatie russe après la destruction d'un avion de combat russe par la Turquie. Mais les relations entre les deux capitales ne seront plus les mêmes, a déclaré Sergueï Lavrov.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Le pape François est arrivé à Nairobi ce matin pour sa première tournée en Afrique, une escale sous haute sécurité. Les autorités kenyanes ayant déployé 10 000 membres des forces de l'ordre pour l'occasion. Le point avec Timothée Donangmaï.
Le pape François a été accueilli par des milliers de Kenyans, de membres du clergé et des panneaux lui souhaitant la bienvenue en anglais, en swahili et aussi en latin. Peu après son arrivée, le souverain pontife a appelé les dirigeants africains à promouvoir des modèles responsables de développement économique pour faire face à la grave crise environnementale qui menace le monde. Il y a un lien évident entre la protection de la nature et la construction d'un ordre social juste et équitable, a souligné le souverain pontife à l'issue d'une rencontre avec le président kenyan Uhuru Kenyatta. Le souverain pontife s'adressera aux Kenyans lors d'une messe ce jeudi, journée fériée dans le pays dont un tiers de la population est catholique. Même avant d'avoir atterri à Nairobi, le pape avait l'air détendu et il parlait avec les journalistes durant le vol, disant qu'il espérait que son voyage portera des fruits, tant spirituels que matériels, pour ses frères du Kenya, de l'Ouganda et de la Centrafrique.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a déploré la décision des autorités burundaises de suspendre 10 organisations non gouvernementales, dont certaines qui défendent la paix, les droits humains, la torture et les droits des femmes et des enfants. Cette suspension semble être une tentative des autorités burundaises de faire taire les voix dissidentes et de limiter l'espace démocratique, a déclaré dans un communiqué M. Zeid, ajoutant que la mesure qu'il qualifie de profondément regrettable réduit les chances de succès du dialogue inter-burundais, une étape clé pour faire avancer le pays. Aucun des 5 médias qui ont été suspendus depuis l'enquête en juin dernier n'ont été en mesure de reprendre leurs activités, a souligné le haut-commissaire, disant craindre que la suspension de ces 10 ONG ait un effet prolongé similaire.
Dans un communiqué diffusé ce mercredi sur des sites djihadistes, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat d'hier en Tunisie contre un bus de la sécurité présidentielle dans le centre de la capitale Tunis et en fait une quinzaine de morts. Lionel Gaïma nous en dit plus.
L'auteur de l'attaque est un Tunisien identifié comme Abdou Abdallah al-Tunisi. Selon le communiqué du groupe État islamique, il était muni d'une ceinture d'explosifs, il s'est introduit dans le véhicule et s'est fait exploser. Le groupe djihadiste a publié une photo d'un homme habillé en blanc, portant une ceinture d'explosifs, la main levée et le visage recouvert. Les djihadistes affirment que 20 personnes ont été tuées, mais selon le bilan officiel, 12 agents de la garde présidentielle sont morts. L'état d'urgence a été réinstauré pour 30 jours, un couvre-feu est en vigueur à Tunis. Le président Bejikaïd Essebsi a déclaré que son pays était en guerre et a appelé la communauté internationale à faire front commun contre le terrorisme.
D'autre part, la Tunisie a annoncé dans un communiqué la fermeture de ses frontières avec la Libye pour 15 jours, le renforcement du contrôle frontalier maritime et des aéroports. Et par ailleurs, la Maison-Blanche a condamné dans les termes les plus fermes l'attentat d'hier. Les États-Unis sont prêts à assister les autorités tunisiennes dans l'enquête sur cette attaque, a fait savoir Ned Price, porte-parole du Conseil national de sécurité de la présidence américaine.
Au Rwanda, à l'issue d'une session ministérielle extraordinaire à Urugwiro, dirigée par le Premier ministre, le Conseil des ministres a décidé de demander au président Paul Kagame de soumettre au référendum la constitution révisée. Le Conseil des ministres répond ainsi après avoir considéré la lettre du 24 novembre que la présidente de la Chambre des députés a adressée au Premier ministre en lui demandant de procéder aux dispositions légales en vue de la tenue d'un référendum pour adopter la constitution révisée en 2015. C'est ce qu'indique un communiqué signé par Stella Ford Mugabo, ministre chargée des Affaires du Conseil des ministres. Récemment, le Sénat a adopté une modification de la Constitution permettant à l'actuel président rwandais Paul Kagame de se représenter en 2017. Cette proposition avait été adoptée par les députés le 29 octobre. Paul Kagame pourra ainsi potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2034.
Reporters sans frontières a dénoncé plusieurs arrestations de journalistes au Niger, estimant qu'elles sont en totale violation de la liberté de la presse, selon l'ONG basée en France. Depuis le 23 novembre, Souleymane Sala, directeur de l'hebdomadaire Le Courrier, est en garde à vue à Niamey. Il s'agit de la cinquième arrestation de journalistes en 10 jours, déplore RSF dans un communiqué. L'arrestation du journaliste serait liée à la publication d'un article sur le directeur adjoint de la police après l'arrestation le 14 novembre de l'opposant Amadou, impliqué dans un trafic présumé de bébés dès son retour à Niamey après un exil en France. RSF appelle les autorités nigériennes à relâcher le journaliste et à cesser d'user de ses détentions préventives pour intimider les professionnels des médias, selon ses termes. Si les autorités s'estiment diffamées, il existe d'autres recours que l'emprisonnement, ajoute l'ONG.
Le 4. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré aujourd'hui que l'attaque de l'avion russe abattu hier ressemble à une provocation planifiée, ses propres mots, mais la Russie n'entrera pas en guerre avec la Turquie. En revanche, a-t-il ajouté, l'incident va pousser Moscou à reconsidérer ses relations avec Ankara. Monsieur Lavrov devait se rendre aujourd'hui même en Turquie, mais il a annulé ce voyage, préférant s'entretenir par téléphone avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu. L'un des pilotes de l'avion de chasse a été secouru par des membres de l'armée syrienne libre de l'opposition et est arrivé ce matin à une base militaire de la Russie dans la ville de Latakia. Ankara maintient que l'avion russe avait violé son espace aérien, ce que démentent le pilote et le gouvernement russe.
Les avions russes ne peuvent plus survoler l'Ukraine. Le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk a déclaré aujourd'hui lors d'un conseil de cabinet que Kiev a décidé de fermer son espace aérien aux avions russes pour deux raisons. La défense de la sécurité nationale et en réponse à la menace russe de cesser toute exportation de gaz naturel vers l'Ukraine. Depuis le mois dernier, aucun avion russe n'a le droit d'atterrir en Ukraine.
Les États-Unis ont annoncé ce mercredi des sanctions financières contre plusieurs entreprises et individus en Syrie, dont un intermédiaire du gouvernement Assad pour l'achat de pétrole en provenance du groupe djihadiste État islamique, selon un communiqué du Trésor. En réponse à la violence continue exercée par le régime de Bachar al-Assad à l'encontre de ses citoyens, le département du Trésor sanctionne 4 individus et 6 entreprises apportant un soutien au gouvernement de Syrie, dont un intermédiaire pour l'achat de pétrole par le régime syrien à l'État islamique, indique le communiqué cité par l'AFP.
Le secrétaire d'État américain a mis en garde Israël et les Palestiniens alors que persiste un climat de tension et de violence entre les deux parties. À son retour à Boston ce mercredi, M. Kerry a déclaré que lors de son récent séjour au Moyen-Orient, il a encouragé Israël et les Palestiniens à prendre des mesures en vue de calmer la situation et prouver leur engagement réel envers une solution à 2 États. Une vague d'attaques et de représailles depuis septembre a déjà fait au moins 108 morts, dont 89 Palestiniens.
La tension reste vive à Chicago, où les protestataires sont descendus dans la rue hier soir après la publication d'une vidéo montrant un policier blanc abattant de 16 balles un adolescent noir en 2014. Précision, Idrissa Seloudia.
Les manifestants marchaient en mémoire de Laquan McDonald et en réaction à cette vidéo filmée depuis une caméra fixée sur le tableau de bord d'un véhicule de la police. La justice avait ordonné sa publication. On y voit le jeune de 17 ans marchant au milieu de la chaussée ainsi que le policier Jason Van Dyke ouvrir le feu sur le jeune noir même après qu'il est tombé par terre.
Ce n'est qu'hier que le policier a été inculpé pour meurtre. Il s'est rendu aux autorités et a été révoqué de la police. Selon le quotidien Chicago Tribune, la police affirme que McDonald avait un comportement bizarre, de la drogue dans son système, et il n'avait pas obtempéré au policier qui lui demandait de laisser tomber le couteau qu'il tenait. Cet incident de Chicago est le dernier exemple de la série de brutalités par des policiers blancs pour la plupart contre de jeunes noirs et qui ont provoqué de grandes manifestations de colère dans d'autres agglomérations américaines.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco présentée par John Linden.
Le gouvernement congolais a baissé de 0,7 point sa prévision de croissance économique pour 2015 à 7,7% à cause du ralentissement de la production minière consécutif à la baisse des matières premières selon un communiqué officiel reçu mardi. Fin août, le gouvernement, qui tablait au début de l'année sur une croissance à deux chiffres, avait déjà abaissé sa prévision de hausse du PIB national à 8,4% en invoquant le ralentissement de l'économie chinoise. L'Afrique du Sud, elle, évite la récession au troisième trimestre 2015. Son PIB a progressé de 0,7%, évitant la récession après la croissance négative du deuxième trimestre dans un contexte économique très tendu, a annoncé mardi l'Office des statistiques. Au deuxième trimestre, l'annonce d'une croissance négative de moins 1,3% avait choqué le pays. La faible hausse du troisième trimestre a été portée par les services financiers et les produits manufacturés qui ont réussi à compenser la baisse de l'activité minière. Enfin, dans un rapport dévoilé mardi, les experts de la Banque mondiale estiment qu'il faudra, à titre préventif, engager des dépenses de l'ordre d'au moins 5 milliards d'euros par an pour aider les pays africains à échapper aux conséquences désastreuses du réchauffement climatique, sécheresse, inondations, famine, malaria, exode des populations, envolée des prix des denrées alimentaires, entre autres. L'énergie est un secteur auquel la nouvelle donne climatique va aussi imposer un effort crucial d'adaptation.
Merci John pour la Minute Éco.
Les sports ce soir, c'est avec Eric Manirakiza en studio. Salut Eric.
Salut Gabi.
Ligue des champions, FC Barcelone, comme à la parade.
C'est le champion invincible Gabi en trois jours. Le Barça a semé l'effroi dans toute l'Europe. Capable d'humilier le Real Madrid chez lui samedi lors d'un classico mémorable 4-0 ce mardi, le club catalan a ensuite fait mordre la poussière à la Roma, vice-championne d'Italie, en carton de 6-1.
Cinq équipes pourraient décrocher leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi.
Oui Gabi, le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid peuvent valider leur ticket en cas de victoire, voire de match nul, respectivement à Malmö et face à Galatasaray. Un succès permettrait également au Benfica Lisbonne en déplacement à Astana, en Manchester United face au PSV Eindhoven et à la Juventus Turin, opposé à Manchester City, déjà qualifié, de décrocher également leur qualification pour les matchs à élimination directe.
En Algérie, vote de confiance pour l'entraîneur français de l'équipe nationale.
Oui, Christian Gourcuff a reçu aujourd'hui le soutien de la fédération algérienne FAF pour poursuivre sa mission comme sélectionneur de l'Algérie, qualifié pour le dernier tour des éliminatoires au Mondial 2018.
Parlons basket, Eric. NBA, Golden State Warriors réalise le meilleur début de saison de l'histoire.
Jamais aucune équipe n'avait réussi un tel début de saison depuis la création du championnat NBA en 1946, Gabi. C'est bel et bien Golden State, comme vous le disiez, qui a réalisé cet exploit. Il a signé sa 16e victoire consécutive hier face aux Lakers, 111-77.
Corruption dans l'athlétisme, révélation de la BBC.
Oh oui, Gabi, l'attribution au mois d'avril des mondiaux 2021 à la ville de Jeune aux États-Unis serait irrégulière. Elle avait créé la surprise car la procédure habituelle de l'examen des candidatures n'a pas eu lieu, alors que la ville de Göteborg, c'est en Suède, avait aussi exprimé son intérêt pour les organiser. Et le nouveau président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, est pointé du doigt, l'équivalent de Blatter à la FIFA.
À Eugene, c'est une ville de l'État d'Oregon aux États-Unis. Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Nairobi.
Pour parler de l'arrivée du pape François aujourd'hui au Kenya, c'est la première étape de son périple sur le continent africain. Alors son message pastoral tiendra compte des réalités et des défis auxquels font face les chrétiens et les non-chrétiens en Afrique. Eric Manirakiza a joint le président de la conférence des évêques de l'église catholique du Burundi, Monseigneur Gervais Banchimiyubusa.
Le message qu'il a donné, c'est un message évangélique. Et l'évangile est toujours en train de parler de justice, de vérité, d'appel à la paix. Alors, dans la mesure où nous savons ouvrir nos cœurs comme chrétiens, en sachant que celui qui vient, c'est un envoyé de Dieu, c'est un apôtre, nous pourrons certainement y trouver des possibilités d'aller de l'avant en améliorant ce qui doit l'être et en corrigeant même certaines choses qu'il faut corriger.
L'Église catholique est très impliquée dans la vie sociale des chrétiens, mais de toute la population en général. Mais elle est aussi critiquée par certains dirigeants comme quoi elle s'implique dans des actions politiques. Est-ce que l'avenue du pape peut donner un message pour confirmer cette doctrine de l'Église?
L'Église catholique, naturellement, doit essayer de tenir compte de ses critiques. Mais elle sait aussi que depuis même celui qui l'a fondé, Jésus-Christ, il y a ses critiques. Il y en a même qui critiquent parce qu'ils ne sont pas contents qu'on est en train de démasquer les travers dans lesquels ils se trouvent. S'il se trouve qu'en annonçant l'Évangile, elle doit être critiquée, elle accepte d'être critiquée, mais elle ne peut pas laisser croiser les bras quand elle voit qu'il y a des situations d'injustice, des situations de mensonges, des situations de corruption, des situations de violence. Elle doit toujours crier et prier et impliquer les chrétiens afin que ce genre de situation puisse être changé. Voilà ce qu'elle fait en toute modestie, en toute humilité, tout en sachant qu'elle peut être critiquée et elle sera toujours critiquée.
Et l'itinéraire du pape, c'est le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine. Y a-t-il une raison particulière?
Au niveau de la République centrafricaine, vous savez vous-même qu'il y a certaines difficultés particulières. Je sais également qu'au niveau de l'Ouganda, il avait été invité à l'occasion d'un jubilé des martyrs ou de la visite du premier pape. Attendons et écoutons le message qu'il va nous donner.
C'était Monseigneur Gervais Banchimiyubusa, joint à Ngozi dans le nord du Burundi.
Tatiana Mosso avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. Qui est derrière cet acte terroriste qui a fait au moins 21 morts? Semaine cruciale au Burkina Faso. Rendez-vous aux urnes ce dimanche après des mois de crise qui ont suivi la chute de Blaise Compaoré. Les élections suffiront-elles à ramener la stabilité au pays des hommes intègres? Kenya, Ouganda et Centrafrique voyagent sous haute sécurité du pape en Afrique. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h.
attentat contre l'hôtel Radisson Blue de Bamako. Le bilan officiel reste à 22 morts. A signalé que 3 employés de cet hôtel et 2 agents de la sécurité privée de l'établissement ont péri et 2 employés ont été blessés. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les responsables de l'hôtel et la presse. Kassim Traoré était sur place.
L'hôtel Radisson Blue de Bamako est membre du groupe Rigidor. C'est pourquoi le président de cette chaîne hôtelière a fait le déplacement de Bamako. Il a rencontré les parents des victimes, le président de la République du Mali, avant de se présenter aux journalistes. Woltang Women, président du groupe Rigidor.
Les membres du personnel sont tristes, ils sont choqués, ils sont en colère. Nous avons perdu 3 membres de notre personnel, ainsi que 2 membres de nos services sécurité. Nous partageons le douleur avec ses familles. J'ai rencontré ces familles, je les écoutais, je les assurais de leur soutien d'aujourd'hui, demain et dans les semaines à venir. Et maintenant, tous nos efforts et toute notre énergie va s'orienter de rouvrir cet hôtel le plus vite possible.
Radisson sera rénové et va rouvrir bientôt ses portes avec le renforcement de son système sécuritaire.
Avec le gouvernement ensemble, nous avons fait les nécessaires pour encore augmenter le service de sécurité dans le futur. À tous les individus de l'hôtel, de les soutenir, de les aider, de les offrir un service psychologique avec un compagnie professionnelle peut faire face à cette situation, qui peut traverser cette expérience et se remettre à un demain et de gagner le courage que nous avons tous besoin dans le futur.
Le bilan de l'attentat à Radisson est de 22 morts. Les forces de sécurité sont à la recherche de 3 suspects, ce qui est une satisfaction pour le propriétaire de l'hôtel Radisson, M. C.C. Comé.
Devant l'ampleur, devant la barbarie, avec 22 morts, on ne parle pas d'évaluation des dégâts matériels. Le matériel, ça c'est autre chose. Les gens qui ont perdu leur vie, pour nous, c'est une grande perte. La vie de l'homme appartient à Dieu. Pour dire que, est-ce qu'on était assuré? Ça, c'est des questions qu'on n'est même pas posées. L'hôtel était assuré à tout risque. On avait une assurance tout risque et aussi, il y avait une assurance groupe de résidents qui passe internationalement pour l'assurance du bâtiment. Votre question, si l'État va réparer ou pas l'hôtel, ça, nous ne savons pas. À vous, en tant que journaliste, de poser cette question à l'État.
Les 2 responsables de l'hôtel Radisson ont profité de leur présence à Bamako pour participer à l'inhumation des travailleurs de l'hôtel qui sont décédés. Alors que du côté de l'enquête, le procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme à Bamako est en train de cravacher dur afin d'aboutir à des résultats concrets. C'est pour cela que les armes utilisées ont été remises à des spécialistes de l'armement afin de retrouver leur provenance. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Tunisie, l'attentat d'hier qui a fait au moins 13 morts et de nombreux blessés a été revendiqué par le groupe État islamique. Pour en parler, John Lyndon a joint Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien à Tunis. Il évoque tout d'abord l'inquiétude provoquée par le fait qu'un bus de la sécurité présidentielle ait été frappé, et cela en plein cœur de la capitale.
C'est attendu en quelque sorte, dans la mesure que les forces de sécurité ne cessent de découvrir des foyers de tension, des armes, des munitions, des voitures piégées. C'est vrai que les forces de sécurité ont réussi à débusquer des armements et des terroristes, mais ils restent encore dans le pays, donc cette attaque est prévisible en quelque sorte.
La Tunisie a été le théâtre de beaucoup d'attentats depuis 2013. Est-ce qu'on connaît les groupes qui opèrent en Tunisie?
Oui, ce sont des groupes liés avec la Libye et la Syrie. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 2000 jeunes Tunisiens qui combattent en Syrie. Il ne faut pas oublier que le passage de la Troïka au pouvoir a laissé faire ces islamistes radicaux en Tunisie. Donc, du coup, le retour de quelques centaines de Tunisiens de Syrie, la proximité de la Libye a fait qu'il y ait des infiltrations de ces terroristes sur le territoire tunisien.
L'état d'urgence a été proclamé et il y a un couvre-feu. Est-ce que c'est la solution au problème actuel?
Ce n'est pas vraiment la solution. C'est juste que c'est surtout le couvre-feu est une mesure préventive si jamais ces terroristes ont encore des intentions de d'autres coups terroristes. Donc c'est la raison pour laquelle on a instauré le couvre-feu. Pour ce qui est de l'état d'urgence, c'est aussi une mesure préventive, vu que dans pareille situation, même la France a usé de l'état d'urgence.
Quel est l'état d'esprit de la population en ce moment en Tunisie ?
La population tunisienne ne sympathise pas avec les terroristes. D'ailleurs, il y a des faits très indicateurs. Les dernières semaines ont montré que les terroristes descendent des maquis sur les montagnes pour attaquer des habitations et s'approvisionner en aliments. C'est-à-dire, dans les dernières semaines, il y a des terroristes qui ont attaqué des habitations près des montagnes de Chahambi, près des montagnes de Jendouba, et à la limite pour voler des aliments à la population. C'est que les terroristes ne trouvent plus de soutien. La population tunisienne est descendue aujourd'hui dans des manifestations de soutien aux forces de l'ordre.
C'était Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien à Tunis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Pour encourager les filles et les garçons à aller à l'école, le PAM Nord-Kivu a introduit le programme de la cantine scolaire dans les écoles primaires. Pour cette année scolaire, 46 000 enfants dans une centaine d'écoles sont concernés par cette initiative dans toute la province du Nord-Kivu, selon le Programme alimentaire mondial. Un reportage de Charlie Kazereka.
Les écoles bénéficiaires sont soit dans une zone de conflit ou fréquentées par des familles pauvres. L'école primaire Nourou est l'une d'elles. Elle se trouve dans la cité de Kibumba, située à plus de 30 km au nord de Goma. La cité a connu des affres, des guerres sous l'occupation de l'ex-mouvement M23. Il est midi, nous sommes à l'école Nourou. Brigitte, 13 ans, elle vient juste d'installer son plat de pâtes et de maïs accompagné d'une soupe faite aux haricots.
Auparavant, quand nous ne mangeions pas, des fois j'avais une réticence pour venir ici au cours. Aujourd'hui, je mange à l'école et je me sens très appliquée. Et j'ai un grand courage pour les études et j'y reste parfois même jusqu'au soir.
Les élèves comme leurs enseignants restent appliqués aux leçons. Madame Kavira, la vingtaine, entourée de ses soixantaines d'écoliers, nous explique ici.
J'enseigne précisément en deuxième année A. Maintenant, il y a l'enfant qui peut passer même la nuit vendre crêpes chez eux. Mais quand il sait qu'il va manger à l'école, il sera ici à temps. Il va étudier avec courage. Il va suivre l'enseignant avec une très grande attention. Parce qu'il est motivé d'abord par la nourriture. Et si vous essayez de circuler ici, dans les écoles environnantes d'ici, nous sommes plus peuplés qu'eux.
L'école primaire Nourou a vu ses effectifs augmenter depuis l'introduction du programme de la ration dans son école. Jean-Baptiste est le directeur.
Oui, dès que ce programme a commencé, l'école a eu beaucoup d'effectifs. Et actuellement, nous avons 654 écoliers. Lorsque la guerre a eu lieu, il y a eu des déplacés massifs. Mais cette année, vraiment, nous comptons 90% de retourner au niveau de cette, des élèves qui étudient ici.
Les bureaux PAM Nord-Kivu se félicitent des résultats escomptés. Mais l'institution rappelle tout de même les difficultés financières qui pourront bien entacher la bonne poursuite de ces programmes. Jacques David est le chargé des communications PAM Nord-Kivu.
Ce programme d'alimentation scolaire sauve des vies. Et pour nous, il faut essayer de continuer, même si on fait face à des contraintes budgétaires. Pour ça, on a besoin de nouveaux partenaires, que ce soit de nouveaux bailleurs, que ce soit aussi des partenaires au niveau de l'État congolais.
La scolarisation des petits-enfants reste un défi majeur pour les familles congolaises, surtout que ce sont les parents qui prennent en charge les enseignants. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, International Music, comme comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Merci Lionel Gaïma et Nelson Lopez à la mise en onde. Présentation chez Ruben Dorcy et Nathalie Barche.
Et voilà, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Très bonne soirée sur VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.